L'invité de notre journal en ce soir de Pessah est le rabbin Jonas Jacquelin. Jonas Jacquelin a suivi une formation en études juives à la Sorbonne, puis il a continué ses études rabbiniques à l'université de Jérusalem, et puis il a obtenu en 2014 sa smicha, c'est-à-dire son diplôme rabbinique. Et il a rejoint depuis la synagogue de Copernic. Il est chroniqueur pour Radio J et il apparaît dans des vidéos de Brut où il explique, vulgarise un petit peu des rites de la religion juive. Le rabbin Jonas Jacquelin va venir nous parler ce soir de la fête de Pessah, de ses origines. Puis nous allons également évoquer la symbolique de cette fête de Pessah qui a énormément à voir avec la liberté et comment, en ces temps de guerre, en ces temps troublés, est-il possible de fêter la liberté. Bonsoir, rabbin Jonas Jacquelin.
Bonsoir.
Alors, on fête Pessah, hein, mais on n'est pas forcément conscient des raisons pour lesquelles nous fêtons cette fête et de l'origine de la fête de Pessah. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Alors, effectivement, parfois, on a toute une série d'automatismes dans lesquels on sait très bien la manière dont va se passer une fête, mais on a un petit peu oublié quelle était l'origine. Pour la fête de Pessah, c'est l'idée de commémorer, mais surtout célébrer, un moment qui est fondateur pour le peuple d'Israël, à savoir celui de la sortie d'Égypte. Après un long temps d'esclavage, les Hébreux vont enfin pouvoir retrouver la liberté. C'est quelque chose qui n'est pas facile, quelque chose auquel ils n'étaient pas forcément prêts au moment de sortir d'Égypte, quelque chose pour lequel ils ne vont pas forcément être prêts immédiatement le temps de leur errance dans le désert. Mais donc cette fête de Pessah, c'est l'idée du passage de la servitude à la liberté, d'un moment où il n'y a pas d'indépendance, il y a de l'oppression, au moment de cette liberté qui place face à des responsabilités et qui place face à une certaine forme de vertige. Qu'est-ce que ça veut dire être libre ? Comment est-ce qu'on fait pour être libre ? Et quels vont être les moyens pour nous, des milliers d'années après les événements qui sont racontés dans la Torah, comment on fait aussi longtemps après pour donner du sens à cette mémoire et faire en sorte que ces événements passés continuent à résonner au présent.
Alors nous allons très bientôt parler de cette question de la liberté et comment être libre et commémorer une fête qui célèbre la liberté, surtout aujourd'hui. Mais avant cela, vous parliez des nombreux rites qui composent les fêtes, qui rythment le calendrier juif. Et évidemment, quand on parle de Pessah, c'est impossible de ne pas parler de ce qu'on appelle le chametz ou le levain. Alors je vais vous demander, pourquoi est-ce qu'il est interdit de manger du levain pendant Pessah ?
Alors effectivement, pendant la fête de Pessah, on va voir cette interdiction de manger du chametz, du levain, et en réalité, tout ce qui a été fait à partir de cinq céréales, le blé, l'avoine, le seigle, l'orge et l'épeautre, et qui aurait levé. Alors on se souvient que dans le récit de la sortie d'Égypte, la chose s'est faite difficilement. Il y a toutes les plaies qui ont touché l'Égypte et au moment de la dixième plaie, au moment où Pharaon se décide enfin à laisser sortir le peuple d'Israël, les Hébreux ont été échaudés par les refus passés de Pharaon. Et donc c'est, nous dit le texte, des Chipazon, dans une grande hâte qu'ils vont sortir d'Égypte. Et dans cette grande hâte, ils n'ont pas le temps de préparer des vivres pour les accompagner. Ils sont obligés de préparer un pain très très rapidement, moins de 18 minutes. Et ce pain, c'est la matzah, un pain qui n'a pas le temps de lever. Et donc, il va y avoir ce double mouvement pendant la fête de Pessah. D'un côté, la mitzvah, le commandement de consommer de la matzah, en souvenir de la hâte dans laquelle les Hébreux ont préparé ces galettes en sortant d'Égypte, mais aussi l'interdiction de consommer tout ce qui aura pu lever, tout ce qui va être le symbole du chametz, de ce qui lève, de ce qui se gonfle. Alors, effectivement, on a cette première explication que j'ai donnée, mais de façon plus générale, on va se dire, il y a le souvenir de la sortie d'Égypte à cause duquel on ne va pas manger de chametz pendant toute la durée de la fête de Pessah, mais il va y avoir aussi une raison peut-être plus symbolique, plus spirituelle, selon laquelle le chametz, ce qui gonfle, ça va être un symbole un petit peu de l'orgueil, un petit peu de l'ego, de tout ce qui va gonfler en nous et qui, en gonflant, va nous faire perdre notre liberté. Parce que avec Pessard, on parle de la liberté souvent politique, de la liberté au sens historique du terme, mais on sait qu'à un niveau plus individuel, souvent, il y a toute une série de privations de liberté qui peuvent exister. Et c'est le moment où on est prisonnier de toute une série de choses que va symboliser le Hametz. Est-ce qu'au quotidien, on n'est pas parfois prisonnier de la haine qu'on pourrait éprouver à l'égard d'une personne, à l'égard d'une idée? Est-ce qu'à certains moments, on n'est pas aussi les prisonniers de préjugés, d'idées préconçues qu'on pourrait avoir au sujet de certaines situations? Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de toute une série d'éléments qui seraient des éléments d'ordre spirituel, d'ordre symbolique, et qui sont représentés par ce Hametz qui gonfle un petit peu comme l'orgueil, qui gonfle comme une chose qui serait en nous et qui viendrait nous empêcher d'être libres, qui viendrait nous empêcher de penser librement, qui viendrait nous empêcher de pouvoir ressentir des sentiments d'une manière libre? Et se vouloir libre à Pessard, c'est aussi se vouloir libre de ce Hametz intérieur, de ce symbole de ce qui gonfle en nous et qui nous entrave à certains moments.
Donc la liberté, c'est se délester de son ego, de se délester donc du levain de l'âme, si on peut dire ça comme ça. Et je voulais vous poser une autre question sur un autre rite de Pessard, à savoir, enfin, je dirais la tradition préférée des enfants à Pessard, le fait de cacher l'afikoman, cette moitié de matza qu'on coupe en deux au tout début du seder. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Ouais, vous pointez le doigt dans la question sur le symbole, sur le sens de cette afikoman. Alors l'afikoman, on sait, sur le plateau du Seder, on va avoir trois matzot, et à un moment donné, on va couper en deux la matza centrale et venir en cacher une moitié, qui va être consommée à la toute fin du repas. Cette moitié, c'est ce qu'on appelle l'afikoman, c'est un mot qui vient du grec, c'est ce qui vient... Après, dans le Talmud, les rabbins nous ont dit c'est une sorte de dessert qui est consommé à la toute fin du repas. Et effectivement, cet afikoman, on va le cacher, et on va le cacher dans un but très très précis, c'est déguiser la curiosité des enfants. Puisqu'on a l'idée, le but des enfants, à partir du moment où on a caché l'afikoman, ça va être de rester éveillé jusqu'au moment où ils vont pouvoir le trouver, jusqu'au moment où ils vont pouvoir éventuellement le dérober aux parents. Et si on fait ça, c'est parce qu'on a envie que les enfants restent éveillés le soir de Pessard, et ils restent éveillés de différentes façons, soit en posant des questions, et on le sait, c'est avec le fameux texte de Manishtana au début du Maguid, dans la Haggadah, mais ça va être aussi en attendant de pouvoir retrouver l'afikoman. Et quand on dit la fête de Pessard, c'est la fête de la transmission, elle est possible uniquement si on est capable d'impliquer dans le rituel toutes les générations. On pourrait se dire, bon, on a des adultes autour de la table du CEDER qui, a priori, d'un point de vue, je dirais, intellectuel, au niveau des connaissances, au niveau de la compréhension, vont être capables de se saisir, de comprendre tous les éléments dont on discute le soir du CEDER, mais on a aussi les plus jeunes, il faut être capable de se mettre à leur niveau, il faut être capable de leur parler à eux. On nous dit, tu raconteras à tes enfants. Et donc, pour raconter à tes enfants, il faut être capable de se mettre au niveau des plus jeunes et déguiser leur curiosité, et notamment avec cet afikoman qu'ils vont devoir aller chercher, qui doit les maintenir éveillés et qui va être consommé à la fin. Et la consommation de l'afikoman à la fin, c'est une consommation, là encore, symbolique, puisque c'est une sorte de substitut, c'est le remplacement de ce qu'aurait été le sacrifice de l'agneau pascal. À l'époque du temple, on allait sacrifier un animal, en garder une partie consommée à l'occasion de la fête, à l'occasion des anciens sédarim à l'époque du temple. Et nous, aujourd'hui, d'un point de vue symbolique, on va manger cet afikoman, et qui est aussi la preuve que dans la tradition, tout se transforme. On est passé d'un culte lié autour du service du temple, sacrifice d'animaux. L'histoire a fait ce qu'elle a fait et on a été capable de s'adapter en ne consommant plus de la viande de l'agneau pascal, mais en mangeant à la place un morceau de pain azim, de manière à toujours avoir tous les éléments présents, même s'ils prennent des formes, des dimensions différentes.
Mmh. Alors justement, pendant le soir du céder, au moment où on boit les quatre coupes de vin, il y a une obligation de boire accoudé dans une espèce de symbole d'opulence, boire comme des rois. Mais en même temps, on parlait tout à l'heure de la matzah, qui est du pain azim, qui est ce qu'on appelle aussi le pain des pauvres. Alors comment est-ce que vous expliquez cette dualité dans la fête de Pessah entre la liberté, l'opulence et quelque chose de moins, en fait, on enlève de notre alimentation, de notre vie?
C'est vrai, de manière générale, autour de chaque symbole de Pessah, on va avoir une sorte de mélange doux-amer. Doux-amer parce qu'on a à la fois effectivement l'opulence, on a le fait de se retrouver autour d'une grande tablée pour consommer le lahmania, pour consommer le pain de misère. On va voir tout au long de la soirée, au début, la première partie avec le karpas, le moment où on va tremper une herbe, ce soit souvent du persil, du cerfeuil ou autre chose, dans de l'eau salée, ça va être le fait de mélanger une herbe qui est le symbole aussi de Chag HaAviv, qui va être le symbole du printemps, de la renaissance, du renouveau, donc quelque chose qui nous place dans une dynamique, quelque chose qui nous tourne vers l'avenir. Donc où est-ce qu'on va la tremper? On va la tremper dans de l'eau salée, qui va symboliser les larmes, qui va symboliser la tristesse. Donc là encore, on a un mélange d'espoir et un mélange de tristesse. Un petit peu après, quand on va avoir le moment de la consommation du maror avec le charoset, qu'est-ce qu'on fait? On prend le maror qui va être un symbole d'amertume, un symbole de tristesse, et on va le mettre dans le charoset qui est particulièrement doux, qui est particulièrement sucré. Donc à chaque fois, on trouve les deux et on voit que Pessah, c'est une fête qui est contrastée. Il y a la joie de la liberté, le bonheur de la libération, mais en même temps, le souvenir de ce qu'a été l'esclavage, mais aussi le fait que la fête de Pessah, c'est une fête qui commémore cet événement passé, mais c'est une fête qui rappelle que la liberté, c'est toujours un combat. Est-ce qu'on peut se dire libre quand d'autres ne le sont pas? Est-ce qu'on n'est pas toujours menacé par une servitude ou une autre, quelle que soit la forme qu'elle prend?
Alors justement, parlons-en de cette situation dans laquelle on se trouve, où on doit fêter la liberté, se réjouir d'être libre et en même temps se souvenir et savoir que d'autres ne le sont pas. On sait que depuis les événements du 7 octobre, il y a près de 130 otages israéliens qui se trouvent dans les geôles du Gaza. On sait aussi que plus de 30 000 Palestiniens à Gaza sont décédés, d'autres sont blessés, la région est meurtrie. Comment on peut s'engager dans les célébrations de Pessah dans cette réalité?
Alors effectivement, d'une certaine manière, la Haggadah, on pourrait dire qu'elle a déjà pensé la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et je dirais à différents niveaux. Dans votre question, vous évoquez deux choses. La question des Gazaouis et la question des otages. Et il y a un passage très intéressant de la célébration du Seder de Pessah, c'est le moment où on va énoncer les plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on fait au moment de mentionner les plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte, donc se sont abattues sur les ennemis d'Israël? À chaque fois qu'on énonce une plaie, on prend un petit peu de vin dans notre coupe et on va retirer du vin de notre coupe, on va retirer du vin de notre verre, comme pour dire, le vin, c'est un symbole de joie, c'est un symbole d'allégresse, c'est un symbole, je dirais, d'ivresse, de plaisir. Et au moment où on évoque la mort, fût-elle celle des ennemis du peuple d'Israël, on ne va pas se réjouir, on ne va pas être dans la joie, et donc on retire un petit peu de vin à ce moment-là. Plus tard, quand on chante le Hallel pour Pessah, on ne va pas chanter un Hallel des psaumes de réjouissance de manière complète, parce qu'on sait que la sortie d'Égypte a eu un prix, qui était peut-être un prix nécessaire à payer pour laisser le peuple d'Israël sortir d'Égypte, mais que ce prix à payer, c'est un prix qui a eu un coût humain. Qu'à ce moment-là, des Égyptiens sont morts, et même s'ils étaient nos ennemis, même s'ils auraient cherché à empêcher nos ancêtres de sortir du pays d'Égypte, on ne peut pas, en tant qu'être humain, se réjouir ou ne pas avoir de peine au moment où des gens qui, qu'on le veuille ou non, ou quelle que soit la forme qu'on peut dire, sont des frères et sœurs en humanité, qui partagent un destin humain commun avec nous. Et ça, la fête de Pessah, on le dit depuis les temps les plus anciens. Il y a même un moment où on pose la question dans un midrash, c'est qu'est-ce qui a été le plus compliqué à accomplir pour Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire pour Dieu? Est-ce que ça a été de créer le monde ou est-ce que ça a été de faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte? Et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Ça a été plus difficile de faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte que de créer le monde. Pourquoi? On pourrait se dire créer le monde, c'est quelque chose de compliqué, à partir de rien, former un espace qui est la terre, pouvoir créer toutes les espèces végétales, animales, puis l'humanité. En quoi est-ce que ça a été plus difficile de simplement ouvrir les eaux de la mer pour faire sortir le peuple d'Israël? Mais on dit que ça a été plus difficile de faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte parce que le Créateur a dû renoncer à Midat Rahamim, a dû renoncer à sa miséricorde et faire mourir des Égyptiens à ce moment-là. Et ça, c'était quelque chose qui était très coûteux, très douloureux pour lui. On a donc cet élément-là qui fait que pendant Pessah, on doit garder à l'esprit le fait que la guerre est parfois nécessaire, les combats sont évidemment une nécessité pour vivre, pour survivre, mais que le fait de voir tomber des ennemis n'est jamais une source de réjouissance. L'autre élément, je dirais, c'est par rapport à la question de la liberté. Et effectivement, on a les otages auxquels on pense, je dirais, à chaque moment, qui sont encore prisonniers à Gaza. Et on peut se poser la question nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire au début de la Haggadah? Vous savez, au début de la Haggadah, il y a le texte « Alarma, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé », et on dit à un moment donné « Ashata avde, cette année esclave, leshana abab nechorim, l'année prochaine, homme libre ». Et donc on se dit, nous, le soir de Pessah, on considère qu'on est comme des esclaves et on espère l'année prochaine être des gens libres. Mais honnêtement, cette année, peut-être plus que d'autres, on a de quoi se poser la question, est-ce que ce n'est pas indécent pour nous qui allons nous retrouver à table avec nos familles, avec nos amis, pour fêter Pessah, de dire que cette année, on est esclaves et qu'on espère l'année prochaine être des gens libres quand on sait qu'il y a les otages dans la bande de Gaza, dans des tunnels qui, eux, sont véritablement privés de liberté, qui, eux, sont vraiment réduits à un état qui est semblable à cet état d'esclavage. Donc, il y a de quoi se poser la question, comment est-ce qu'on peut dire cette chose-là? Et ce qu'on peut répondre, c'est le fait de comprendre, quand on dit qu'on est esclave cette année et qu'on espère être homme libre, personne libre l'année prochaine, c'est parce que la liberté, c'est toujours un espoir. La liberté, c'est toujours une promesse. La liberté, c'est toujours quelque chose qui nous tourne vers l'avenir pour se dire comment est-ce qu'on est libre et est-ce qu'on peut être soi-même libre ou se considérer comme libre quand on a des gens qui eux-mêmes sont privés de liberté. Est-ce qu'un être humain peut dire qu'il est libre quand il y a d'autres personnes qui sont privées de liberté non loin de là où il est? Et ça, c'est une vraie question, je dirais, au sens philosophique du terme qui est porté par la Haggadah, c'est qu'est-ce que la liberté et dans quelle mesure la liberté est quelque chose pour aujourd'hui et dans quelle mesure elle est une promesse, un espoir vers lequel on doit toujours être tourné.
Rabbin Jonas Jacquelin, merci énormément pour votre intervention et Chag Sameach.
Chag Sameach à vous.